tranche de vie, une émission proposée par JF. Chers amis auditeurs de Tranche de Vie, je suis aujourd'hui avec Jean-Pierre, un fou d'accordéon, qui va nous expliquer comment on devient fou d'accordéon et ce qu'on peut faire avec l'accordéon. Jean-Pierre, bonjour.
Bonjour. Alors, je crois que dans la question, il y a déjà la multitude de situations, de circonstances. En ce qui me concerne, il se trouve qu'il y a un facteur d'accordéon dans le village où j'ai pris ma retraite et j'ai passé un certain temps à regarder les accordéons. Et puis un jour, je suis rentré. Et j'ai demandé combien ça coûtait, tout simplement, et la factrice d'accordéon, puisque c'était une jeune femme qui avait embrassé ce métier, m'a fait un calcul sur un accordéon qui était là, et voilà comment j'ai acheté mon premier accordéon sur un coup de tête. L'accordéon représentait vraiment pas grand-chose dans ma discothèque, mais voilà, j'avais deux ou trois disques d'accordéon. C'est comme ça que j'ai commencé.
Mais ça veut dire que quand même, tu avais des dispositions pour la musique et tu jouais déjà d'autres instruments.
C'est-à-dire que j'ai toujours adoré la musique, j'ai toujours beaucoup écouté la musique et j'ai joué un petit peu très mal, mais je joue mal aussi de l'accordéon, mais très mal du piano, de la batterie, des choses comme ça. Mais l'accordéon, c'est un instrument que je trouvais un petit peu mystérieux, que je ne limitais pas dans ce que j'entendais aux musettes, telles qu'on peut l'entendre en France. C'est-à-dire que j'aimais bien les musiques traditionnelles, ce qu'on appelle la country ou la trad, mais c'est toujours la même chose. C'est-à-dire ces musiques d'origine qui sont en Amérique du Sud ou en Europe centrale et dans notre Auvergne ou notre Bretagne, qui sont les musiques autour desquelles les gens dansent, se retrouvent, font des veillées. Et cet aspect-là m'a toujours beaucoup plu.
Alors, c'est par ces musiques que tu as abordé ton entrée dans l'accordéon ?
Tout à fait. C'est par ces musiques et aussi par la chanson française, parce qu'il se trouve que l'accordéon a très très souvent accompagner les chanteurs français, en tout cas les chanteurs que j'entendais de ma génération, c'est-à-dire fin des années 50 jusqu'aux années 80. Tous les chanteurs, sans exception, ont été accompagnés à l'accordéon, et quelquefois les duos sont devenus extrêmement célèbres, comme Romanelli avec Barbara, ou comme Galliano avec Nougaro. Donc c'est aussi cet aspect-là qui m'a beaucoup plu, parce que à travers ses accompagnements et à travers la liberté que laissait l'artiste chanteur à l'artiste musicien, à l'artiste accordéoniste, j'ai écouté des choses qui allaient vers le jazz, qui allaient vers l'improvisation, qui allaient vers toute autre chose que le musette.
Mais est-ce que tu peux nous donner une petite illustration justement de ces musiques, ou deux illustrations, une des musiques traditionnelles et puis une des accompagnements de chansons, par exemple, qui sont déjà très différentes.
Alors, accompagnement de chansons, il y a beaucoup de grands musiciens des années 20-30, c'est-à-dire souvent d'origine italienne, qui ont contribué à amener l'accordéon en France, qui ont composé pour l'accordéon ou pour le cinéma, ou pour la chanson à l'accordéon, et qui sont devenus des classiques, hein, par exemple.
Pour le profane, il y a un abîme entre Padam, Padam, Padam.
Et Padam, puis, qui, au cas d'espèce, n'a pas été écrit par un Italien, mais par Norbert Glanzberg, je crois, et qui était un musicien de musique de film, mais qui a subi beaucoup l'influence de gens comme Joseph Colombo. Joseph Colombo, c'est Amour piémontais, c'est-à-dire on va voir tout de suite une cadence différente, une cadence de valse pour danser.
Alors, vas-y. comme je le disais tout à l'heure, pour le profane, il y a un abîme entre cette musique, là, ce que tu viens d'interpréter, aussi bien l'accompagnement d'une chanson que cette valse, et puis des morceaux d'accordéon, d'accordéoniste moderne, contemporain. On a l'impression, comme Galliano par exemple, on a l'impression qu'il y a le même abîme qu'il y a entre la peinture figurative et la peinture abstraite. Est-ce que je me trompe ?
Oui, mais on peut aimer toutes les peintures. Et aujourd'hui, il y a une exposition sur Velázquez, et les gens qui aiment Velázquez, ils ont le droit d'aimer Basquiat ou Bacon ou Van Gogh. Et les influences des gens qui aiment la musique comme les gens qui aiment la peinture, elles sont multiples et de tous les horizons, c'est-à-dire géographiques et chronologiques. Donc en France, parce qu'on voit l'accordéon en France, donc en France, bien sûr que l'incidence musette et l'influence musette est très grande. Donc tous les accordéonistes, même encore aujourd'hui, passent par la virtuosité, donc passent par le musette, mais ils y restent pas forcément. Même si, comme Galliano, puisque tu parlais de Galliano, il a jamais renié le musette. Il a même créé le new musette et il a réadapté le musette comme Astor Piazzolla a pu le faire avec le tango. Mais encore une fois, ça c'est une vision extrêmement française. Aux États-Unis, l'accordéon, il va servir à accompagner de la country, du bluegrass, des musiques toujours traditionnelles du terroir, enfin, qui sont, ou des musiques qui sont sous influence jazz, très, très rythmées, Louisiane, etc. Hein.
Alors là, tu viens d'évoquer encore une facette de l'accordéon qui est tout à fait fondamentale, qui est celle du tango. Est-ce que tu pourrais nous donner une petite illustration musicale du tango et nous dire un petit peu ce qui a dérivé du tango dans l'art de l'accordéon actuel, après ?
Ça, par exemple, c'est Astor Piazzolla. Astor Piazzolla, il faut savoir que en Argentine, il a été extrêmement critiqué quand il a revisité le tango de cette manière. C'est-à-dire le tango, on était sur le rythme, poum, tchac, 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 poum, tchac, tchac, tchac. C'est-à-dire, c'est véritablement une musique de danse. Et lui, il a revisité ça tout en gardant cette rythmique, mais cette rythmique qui n'apparaissait pas. Et paradoxalement, en Argentine, Carlos Gardel, qui est un bon Toulousain à sa statue, a fait des tangos extraordinaires. Et Astor Piazzolla, il a eu beaucoup de peine à imposer sa vision du tango. Donc cette musique, on voit bien que toujours la musique, c'est une espèce de sédimentation de choses et d'influences comme dans tous les arts, mais plus encore que les autres, parce que instantanément on peut reproduire toutes ces influences dans un morceau ou dans une composition sans qu'on arrive véritablement à discerner quelle est l'influence de ceci ou de cela. C'est ce que je trouve, moi, personnellement, passionnant dans la musique, qui est souvent le support de l'accordéon, même si on peut prétendre, sans trop se tromper, qu'on joue beaucoup, beaucoup de choses, sinon tout, à l'accordéon. J'écoutais Michel Legrand, qui est un grand musicien français, bien méconnu en France, mais très connu aux États-Unis. Et Michel Legrand, qui a fait peut-être la musique de dizaines et de dizaines de films, et notamment aux États-Unis, il a toujours fait venir un accordéoniste, même dans les plus grandes formations de ses orchestres aux États-Unis, pour faire des musiques de films. Parce que la chanson française ou la musique française ou la petite seconde qui veut évoquer la France dans un film étranger ou un film américain au cas d'espèce passe par l'accordéon.
Alors, on peut conclure, ou pas conclure, provisoirement, que avec l'accordéon, comme on le disait tout à l'heure, on peut tout faire. Et y compris accompagner des textes.
Tout à fait. Tout à fait, accompagner des textes pas forcément chantés d'ailleurs, puisque Jean-Louis Trintignant, Jean Rochefort, ils ont fait des spectacles accompagnés par des accordéonistes, en laissant libre cours à des accordéonistes, alors qu'eux récitaient des poèmes ou lisaient des textes en prose. Et le mariage, pour une raison très simple, c'est d'ailleurs ce qui, moi, me passionne dans l'accordéon, au tout début de cette passion pour cet instrument, c'est qu'en fait, mais avant moi, les millions d'amoureux de l'instrument, c'est que l'anche libre ressemble énormément à la voix humaine, et que c'est pas pour rien que parmi les multiples surnoms de l'accordéon, il y a la boîte à sanglots, la boîte à frissons, parce que ce son de l'accordéon est propice à créer l'émotion, à créer quelque chose qu'on ne trouve pas dans une corde grattée ou dans une corde frappée.
Alors, en évoquant cet aspect extrêmement sensible de l'accordéon, ou propre justement à éveiller la sensibilité, tu as évoqué un terme technique qui est l'anche libre. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est ? Parce que tout le monde ne sait peut-être pas.
Alors, l'anche libre, c'est simplement une plaque de métal qui vibre dans un châssis sous l'influence de l'air que lui envoie le soufflet. Et c'est cette vibration qui ressemble énormément au son que produisent nos cordes vocales. Et qui est très proche d'un autre instrument qui nous émeut aussi, c'est l'orgue.
Il y a, pour le profane, on a l'impression qu'il y a un abîme entre le bandoneon et puis les énormes accordéons des plus grands interprètes. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelques mots de la famille de l'accordéon ?
Là aussi, je ferai preuve de beaucoup d'humilité, parce que je renverrai les gens que ça intéresse à un livre qui s'appelle « L'accordéon » de Pierre Menichon, qui est vraiment le maître S accordéon en France. Mais disons qu'il y a deux ou trois grandes familles d'accordéons. Les accordéons à basse standard, avec des basses qui sont des accords préparés, et donc les accordéons ou les accordéons à basse chromatique, main droite et main gauche complètement indépendantes. Et ça, c'est dans la famille des accordéons chromatiques, c'est-à-dire on tire et on pousse le soufflet avec la main droite, la main de la voix, c'est toujours la même note qui sort. Avec l'accordéon diatonique, qui est un peu plus petit, qui est plus léger, qui est donc moins coûteux et qui est plus répandu, au départ, l'accordéon diatonique, c'est on tire, on pousse, on a deux sons différents. Donc le bandoneon, il était au départ avec un son chromatique, deux voix simplement, une flûte basse et une flûte haute, et depuis, il a évolué vers des bandoneons chromatiques. Mais il y a très peu de fabricants de bandoneons, et le bandoneon, c'est un instrument merveilleux qui est pas assez joué à mon goût et pour lequel l'apprentissage est très difficile. Il faut accepter de faire l'exercice. Enfin, quand on est au chromatique, aller vers le diatonique ou le bandoneon, c'est compliqué quand même.
Bon, alors je retiens de ce que tu nous dis que le bandoneon, c'est pas un ancêtre primitif de l'accordéon.
Pas du tout. L'accordéon, ça date de la fin des années 1820 en Autriche. Et le berceau, c'est l'Autriche, c'est l'Allemagne. C'est passé en Italie et puis c'est arrivé en France. Mais ça s'est disséminé, bien évidemment, dans toute l'Europe, en Irlande et en France, un petit peu dans tous les coins. Mais quand on entend l'accordéon tel qu'on le connaît le plus en France, c'est-à-dire le musette, c'est l'influence des bals populaires. Dans les établissements qui étaient tenus par souvent des Auvergnats, Paris, région parisienne, dans lesquels jouaient des cabrettaires. Ces cabrettaires, le nom savant de la cabrette, qui est un vieil instrument qui a été utilisé au XVIIe ou XVIIIe siècle, c'était la musette, l'apostrophe à musette. Et l'accordéon ayant supplanté en dextérité les accordéons joués par ces Italiens, Italiens qui sont arrivés avec l'immigration début du XXe siècle, qui ont supplanté les cabrettes. Ils faisaient le bal à la musette, de elle, apostrophe à musette, c'est devenu le bal à la musette, la petite muse aussi, la jeune parisienne, et c'est comme ça qu'on a parlé du musette. Mais le musette, on a beaucoup entendu parler de musette, la radio a participé à la vulgarisation du musette dans les années 40, à partir des années 40 jusqu'aux années 70, mais il n'y a pas que ça dans l'accordéon en France.
Est-ce que tu peux nous envoyer un petit coup de musette ?
Je vais essayer, parce que musette, c'est beaucoup de virtuosité, mais je vais essayer de faire quelque chose. La brise napolitaine, un morceau extrêmement célèbre sur lequel ont dû transpirer tous les gens qui passent des concours et qui passent des auditions.
C'est une très jolie brise.
Saboté, je vous prie de m'en excuser.
Tu es trop modeste. Dis-moi, un accordéon, ça ne s'achète pas à l'hypermarché. Est-ce qu'il y a beaucoup de producteurs, de fabricants d'accordéons, de facteurs d'accordéons? Est-ce que tu peux nous donner une idée des prix des différentes sortes d'accordéons ?
Alors, les accordéons, j'aurais tendance à dire un petit peu tous les prix. En France, il n'y a plus qu'un grand fabricant d'accordéons, ce sont les établissements Maugin à Tulle, qui font des très beaux accordéons, mais il y a beaucoup d'accordéons qui sont utilisés en France et qui sont fabriqués en Italie. Tout un tas de marques, les plus prestigieuses, comme Victoria, utilisées par Galliano, et des jeunes qui montent, comme Vincent Perani, etc. Et puis les Pierre Maria, les marques traditionnelles, Cavagnolo, etc., etc. Castagnari sont des accordéons diatoniques, mais à côté de qui sont fabriqués en Italie aussi, qui ont un son vraiment merveilleux. Et la marque fait depuis quelques années un chromatique également. Mais naturellement, c'est très 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 limitatif tout ça, parce que en définitive, il y a tout un tas de fabricants en Italie, mais en France, il y a aussi des gens qui fabriquent des accordéons diatoniques, qui sont très peu connus, que je ne pourrais pas vous citer de mémoire, mais il y a d'excellents facteurs d'accordéon qui savent faire un accordéon de A à Z et qui fabriquent l'accordéon. On n'en trouve pas en chromatique parce que ça coûte très très cher de faire en même temps les châssis, les lames, etc. Et souvent, ce sont des assemblages. Mais voilà, l'idée, la gamme de prix, un petit diatonique, ça peut commencer autour de 1500 euros. Et les plus belles pièces de chez Victoria, c'est peut-être 25 000 euros. Il faut savoir que dans un accordéon, il peut y avoir 2800 ou 3000 pièces. Et que ce sont des mois de travail. Vous n'allez pas acheter un accordéon, vous ne rentrez pas dans le magasin, vous ne repartez pas avec votre accordéon. L'accordéon, vous le commandez, on vous le fabrique, on vous fait l'accord que vous voulez. Même si vous achetez un accordéon d'occasion, et il y en a de très beaux, et il y a des facteurs merveilleux qui savent restaurer les accordéons, les accorder, etc., ils vont les préparer comme vous le souhaitez, et c'est du temps. Donc c'est ce qui coûte le plus cher dans l'accordéon.
Est-ce qu'à ta connaissance, la production des accordéons en qualité est encore dominée par l'Europe ?
Très difficile. Alors ça, très difficile à répondre à cette question, parce que nous, on a cette fâcheuse habitude de se placer au centre du dispositif comme si on était les seuls à le faire. Il y a un exemple qui vient tout de suite à l'esprit, c'est la Russie qui depuis plus d'un siècle, a fait rentrer l'accordéon dans les conservatoires. Donc ce qu'on appelle les baïans soviétiques sont souvent des basses chromatiques, donc avec main droite, main gauche indépendante, sans accord préétabli, sont des accordéons absolument merveilleux. Il y a un garçon qui joue merveilleusement du baïan à Bordeaux, qui s'appelle Bruno Maurice, qui est connu dans le monde entier. Sont des accordéons qui sont âgés et qui sont toujours aussi performants. Donc, on a de leçons à donner à personne, ni en France, ni en Italie. En Allemagne, il y a des très, très bonnes marques. Les pays de l'Est jouent avec des marques que moi, je ne connais pas forcément. Honor, évidemment, c'est la marque emblématique. Mais je suppose que en Chine et au Japon, où l'accordéon commence à se pratiquer de plus en plus, il y a aussi des fabricants. En tout cas, au Japon, il y a le fabricant d'accordéon MIDI qui est le plus célèbre, c'est le Roland sur lequel joue un virtuose de l'accordéon qui s'appelle Ludovic Beyer, qui fait des choses avec l'accordéon. Bon, c'est comme un orgue électrique, il a 250 instruments, 4000 boîtes à rythme, rythmes différents, enfin il fait absolument tout, il vous fait la charge de la brigade légère, l'illustration de n'importe quel film. Bon, mais c'est aussi des sont en boîte. Enfin, ce sont des choses totalement différentes que moi personnellement je critique pas, mais c'est autre chose.
On pourrait rester des heures à t'écouter, Jean-Pierre, mais est-ce que maintenant nous allons être obligés de nous séparer, malheureusement, quitte à recommencer à te retrouver une autre fois pour aller plus loin dans la connaissance de l'accordéon? Est-ce que pour terminer, tu pourrais nous interpréter un petit morceau de John Galliano ou d'un auteur de ton choix qui soit vraiment une illustration de l'accordéon contemporain?
Alors, plutôt que de faire quelque chose de Galliano qui est dans la performance, mais aussi beaucoup dans l'accompagnement, parce que il est assez rare d'écouter un accordéoniste jouer seul. Il y a souvent un quatuor, pour le cas de Galliano, un quatuor à cordes ou des choses comme ça. Et naturellement, moi, ce que je cherche à faire et ce que j'aime dans l'accordéon, c'est retrouver une couleur sonore. C'est totalement différent que de jouer quelque chose avec un guitariste ou avec un orchestre. Mais plutôt, je vais essayer de vous interpréter quelque chose que vous connaissez bien et y mettre les sentiments qu'on peut mettre dans l'accordéon.
J'ai une dernière question que j'ai oublié de te poser et qui m'est suggérée par le volume de l'instrument que tu as sur les genoux. C'est fatigant de jouer de l'accordéon?
Ben, si, c'est pas trop fatigant, c'est moins fatigant que debout, bien évidemment, mais enfin, je recommande aux accordéonistes, amateurs et aux autres, d'ailleurs, de s'arrêter quand même toutes les heures et de faire des exercices d'assouplissement, sinon on dépasse la douleur et on le paye le lendemain ou le surlendemain. Mais c'est vrai qu'un accordéon, un bon accordéon avec des caisses de résonance, des boîtes de résonance, c'est entre 12 et 15 kilos, donc c'est vrai que ça finit par fatiguer un petit peu.
Nous te remercions et nous t'écoutons.
C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.